Gustave Geoffroy, rubrique L'Art d'aujourd'hui, Jules Desbois, samedi 6 juin 1896. Le sculpteur Jules Desbois a son atelier au fond de Montrouge, non loin des fortifications, impasse Camus, rue des Plantes. Une porte sur l'impasse, l'autre sur la coupée du chemin de fer de ceinture. Un jardin d'éval se confond avec le talus au-dessus de la voie. Ce jardin, c'est une continuation de l'atelier, puisqu'il faut passer par l'atelier pour y entrer, à moins d'escalader la palissade et le talus. Mais en réalité, c'est la préparation au travail de l'atelier. C'est là que, dans la saison propice, Desbois élève ses potirons, ses courges, ses gourdes. Depuis que Mirbeau nous a révélé les mœurs du concombre fugitif, je ne sais si l'installation de Desbois est bien prudente et s'il n'arrive pas aux gourdes, courges et potirons de sauter par-dessus la barrière et de prendre le train circulaire. Toujours est-il que l'artiste m'a paru veiller sur ses produits avec un soin jaloux, qu'il modèle la glaise, qu'il taille le marbre, qu'il creuse le bois, tout en causant de sa voix rude, précipitée et joyeuse, il n'a garde de quitter du coin de l'œil son jardin suspendu et les formes qui s'y prélassent. Évidemment, il n'est pas tranquille, et même de temps en temps, il vient, sur le seuil de sa porte, débourrer sa pipe et darder le regard du maître sur ce troupeau en apparence immobile. Les voyageurs de la ligne de ceinture qui le voient ainsi, au milieu de ses potirons, emportent sans doute avec eux l'image fugitive d'un maraîcher circonspect, attentif, apte à faire naître et prospérer des produits supérieurs. Il ne se trompe guère, et c'est d'une culture assez extraordinaire qu'il s'agit. Ces potirons, courges, gourdes que Desbois inspecte avec un soin si jaloux, ne s'évadent pas du côté de la voie ferrée, mais viennent au contraire, l'un après l'autre, selon une bonne discipline, se réfugier dans l'atelier. C'est là que s'accomplit leur destinée. Dans son jardinet, le sculpteur élève des formes, essaye une sélection. On sait qu'il eut l'idée, il y a quelques années, avec Baffier et Charpentier, de ressusciter l'étain, de remettre en honneur cette belle matière souple et mate, si bien indiquée pour exprimer les surfaces lisses, les rondeurs, les douceurs, toutes les manières d'être fluides, depuis l'eau qui court jusqu'à la chair qui respire et s'alanguit. Desbois chercha donc, non une destination précise aux objets qu'il allait façonner, mais un prétexte à l'emploi de l'étain. Il ne trouvait pas suffisant de refaire en une matière différente les sujets, statuettes ou bustes qu'il exécutait pour le bronze et le marbre. Ce fut alors qu'il avisa, en même temps qu'il remettait l'étain en honneur, de reprendre aussi les formes significatives de son emploi. Le pot, l'assiette, la bouteille, le plat, la cruche, le cruchon, le pichet. Il ne songea pas un instant à se donner des airs d'inventeur qui apportent une combinaison mystérieuse. Il est de ceux qui savent que l'on se différencie suffisamment par une nuance dans le choix et l'étude du réel, et il se mit tranquillement à la besogne. De là, son jardin. Desbois savait aussi que la nature féconde, inépuisable, toujours semblable en apparence, si infiniment variée, toujours renouvelée en réalité, lui offrirait à profusion, sans épuisement possible, tous les modèles dont il aurait besoin. C'est à ces modèles qu'il a demandé les secrets de la forme, du modelé, de la force, de l'élégance, de l'équilibre. Il avait déjà la conviction de cette existence variée et complexe dans la prétendue monotonie. Combien il a renforcé cette conviction au milieu de ce petit monde végétal où il vit. Il vous expliquerait certainement comme quoi il n'y a pas deux courges qui se ressemblent. Il fournirait le signalement de chacune, il leur donnerait des noms particuliers. C'est ainsi que l'accord s'est fait entre le maraîcher et le sculpteur. Jules Desbois est un homme de la campagne. Il est né au champ, au village, en Maine-et-Loire. Il a été l'enfant qui vit au plein air, au long des routes, des sentiers, parmi les bêtes et les plantes. C'est un inspecteur scolaire qui a déterminé sa vocation, qui l'a excité à dessiner, qui a convaincu le père des bois de la nécessité d'envoyer son garçon à la ville. Notre artiste est donc parti pour Angers, a été mis en apprentissage chez M. Bourrichet, excellent homme auquel l'apprenti, devenu maître à son tour, a gardé une tendre reconnaissance. M. Bourrichet, qui faisait de tout, qui vendait de tout, même des bons dieux, selon la formule du quartier Saint-Sulpice, s'est bien gardé de gâter, par une fausse éducation, les dispositions qu'il voyait chez le jeune des bois. Il lui fit apprendre à voir, à modeler, d'après les belles images de la nature que nous a laissé l'Antiquité, les moulages qu'il avait parmi ses pauvres bons dieux. Et c'est ainsi que des bois a reçu sa première initiation. Il en reçut une autre à Paris, mais pas tout de suite. Il lui fallut passer 3 ans à l'école des Beaux-Arts, où il s'ennuya, resta sur place, rebuté par les méthodes, gagné par l'incompréhension, par la torpeur. Heureusement, il rencontra Rodin, solitaire, acharné au travail, dans son atelier de la rue des Fourneaux. Rodin devint le compagnon et le maître, celui qui avait découvert le secret des formes apparues dans la lumière et qui ne demandait qu'à communiquer ses découvertes. Ce furent alors des longues journées d'études devant le modèle et des heures de démonstration dans les musées, aux sources où Rodin avait trouvé la force et la certitude pour aborder la nature. C'est toute la vie d'artiste de Jules Desbois qui tient là en quelques lignes. Des champs de Maine-et-Loire au jardinet de Montrouge, de l'enseignement de M. Bourrichet à la rencontre de Rodin. Le résultat de ce cheminement, de ce travail, vous le connaissez, il est exposé avec honneur en ce moment dans une salle du rez-de-chaussée du Salon du Champ de Mars. Toute une vie d'honnête labeur, de recherche acharnée est ici présente. Une personnalité robuste et saine se dégage peu à peu, apparaît finalement en pleine lumière. C'est un délicat artisan, de veine très française, qui allie sans cesse une force à la grâce, qui en fait un composé de volupté fine. Il se manifeste en tous ses objets d'étain. Ses plats, ses pots, ses encriers, cendriers, vide-poches, bougeoirs, aux formes de fleurs, aux anses noueuses comme des tiges, aux surfaces où glisse une eau courante. Dans ses eaux triomphent les naïades, les sirènes, préférées par des bois. Des femmes au corps terminé en queue de poisson, rapide, passagère, qui donne la sensation de la détente brusque de la crevette et de l'arabesque furtive de l'anguille. Tout un monde des eaux, aux mouvements nerveux et aux évanouissements magiques. Et toute la beauté de l'élément, à la fois placide et tumultueux. Lac tranquille, arrivée de houle. C'est le statuaire du bronze de la mort et du bois de la misère. Des effrayantes et belles apparitions de vieilles femmes décharnées, squelettiques. Des bois, impitoyablement, dessèchent leurs mamelles, fouillent leurs flancs à travers l'ossature de leurs côtes, cherchent dans la cavité de leurs yeux, dans la ligne usée de leur ancien sourire. Il veut trouver dans ces restes la beauté et le secret de la vie. Et il est impossible en effet de voir sans émotion cette statue courbée de la misère, ce corps en ruine, resté beau comme une ruine, ce profil grave et cette résignation d'une éloquence silencieuse. Il est aussi le statuaire de la Léda, de la belle arrivée amoureuse du cygne, de ses bras voluptueusement abandonnés, de ce dos frémissant, de ce marbre où passe le frisson heureux, et qui sera un marbre admirable de tous les points lorsque certains points du col des extrémités auront été désengorgés, plus serrés, plus nuancés. Il est enfin le sculpteur de ce buste de femme, où il donne la mesure actuelle de son grand talent par cette physionomie dans l'ombre et ses cheveux éclatants, par toute cette chair tiède, savoureuse et émotionnante de la femme parvenue à la vive et complète expression de sa beauté. Ainsi, Desbois a déjà parcouru tout un cycle d'existence qu'il nous montre par de sûres indications, depuis le vase du potier jusqu'au buste et à la statue du sculpteur, depuis la forme de l'humble végétal jusqu'à la vie animée du visage humain. Gustave Geoffroy.